Je peux commencer?
Oui, mais souviens-toi que nous sommes fragiles. C'est pourquoi tu ne peux pas nous parler sur n'importe quel ton. Il faut choisir ton ton. Ton ton n'est pas toujours de bon ton, ni de bon goût d'ailleurs. Nous connaissons un peu les usages qui se pratiquent dans les milieux aisés, qui possèdent le bon ton de bon goût, car nous aimons les arts et nous avons du goût. Du moins un certain goût. Nous avons du goût, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas à ce niveau d'aisance qui permet d'être à l'aise dans les milieux aisés. Mais nous y aspirons. Nous avons, malgré nous, un rêve d'ascension. Alors que ce rêve ne nous fait pas rêver. C'est un rêve imposé. Autrement dit, une idéologie. L'idéologie est un rêve à la con, mais nous ne pouvons pas nous en sortir pour autant. Car nous avons besoin de rêver. Nous aussi. Bien que nous n'en ayons pas les moyens, nous sommes comme les vers du Rhin, toujours à péter au-dessus de notre cul, mais en un peu moins haut. Nous nous comparons aux vers du Rhin, ce qui est ridicule. De quel droit, en effet? Peu nombreux sont ceux qui peuvent se réclamer des vers du Rhin sans être ridicules. En tout cas, pas nous. Les vers du Rhin ne sont pas des amis. Ce sont des références. Car nous en avons. Nous nous réclamons des vers du Rhin pour souligner que nous avons lu Proust, ce qui est discutable. Nous avons lu Proust, mais nous n'en sommes pas sûrs. Au fond, qui a lu Proust? À part quelques Proustiens. Nous ne sommes pas Proustiens. Bien que pas non plus anti-Proustiens. Nous aimons beaucoup Proust, mais le connaissons-nous? Nous avons l'air de dire que nous connaissons Proust, ce qui est prétentieux. Nous prétendons connaître aussi les vers du Rhin, ce qui est impossible. Néanmoins, nous en avons entendu parler par Proust, qui les connaissait bien, que nous connaissons mal, mais que nous avons lu, comme nous pouvions, avec les moyens du bord. Et d'autres livres aussi, qui font partie de la littérature. Enfin, nous l'espérons. Car nous aimons la littérature, et nous aimons l'aimer. Nous aspirons en effet à une certaine culture, que nous aimons aussi, car nous en avons. Nous avons de la culture, mais nous n'en sommes pas sûrs, car nous manquons d'aisance. Nous n'avons pas l'aisance des milieux cultivés. Nous sommes cultivés, mais pas naturellement. Nous faisons illusion, mais pas durablement. Nous n'avons pas envie d'être ridicules. Et de fait, nous sommes toujours un peu limites. C'est pourquoi nous préférons éviter de définir le bon ton de bon goût. Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons finalement convenu que nous ne voulions pas nous ridiculiser. Nous n'en avons pas la prétention. Prétendre au ridicule serait un peu fort de café. Comme diraient les vers du Rhin, que nous ne connaissons pas, car nous sommes de la classe moyenne. Ah, disons non. Classe moyenne supérieure, plutôt dans le haut du panier. Quoique nous ne sommes pas à l'abri de la dégringolade, hein. Une seule faute de goût et badaboum. Badaboum est peut-être une expression des vers du Rhin, d'ailleurs. Ça ne nous étonnerait pas. Le risque est ce vers du Rhin qui revient au galop. La peur du ridicule est peut-être ridicule, mais c'est une précaution en ces temps incertains. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trop en demander sur le bon ton de bon goût. Car qui sommes-nous? Et nous avons décidé de nous contenter d'un ton gentil. Nous aimons les gens gentils. Même si nous avons appris, sinon à aimer, du moins à respecter, voire à supporter les gens pas très gentils, nous préférons les gens gentils. Nous savons que des gens gentils peuvent s'exprimer sur un mauvais ton et que des gens pas très gentils peuvent s'exprimer sur un bon ton. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un, même de gentil, nous parle sur un mauvais ton. Hier, ton ton n'était pas conforme à ce que nous pouvons encaisser de ta part. Nous encaissons le mauvais ton des gens pas très gentils, voire des gens aisés, mais nous n'encaissons pas ce ton-là de ta part. Quelqu'un d'aisé peut avoir un mauvais ton, de bon ton, que nous encaissons, bien que ce soit pas très gentil. Mais pas quelqu'un comme toi. car tu n'es pas des plus aisés. Tu le fus cependant à un certain moment. Tu fus encore plus riche que bien des gens aisés. Tu eus une grosse bagnole et beaucoup de loisirs. Tu coupais les tomates avec un coupe-tomate. Tu servais des poissons dans des plats à poissons en forme de poisson. Tu prenais les escargots avec une pince à escargots et le sucre avec une pince à sucre. Et tu avais un sèche-linge pour ne plus t'emmerder avec des pinces à linge. Tu ne comptais jamais. Tu vivais largement au-dessus de nos moyens. Tu avais un karcher et un chien très cher. Et tu nous snobas. Mais nous fûmes contents pour toi. Puis tu divorças, ce qui nous attrista. Tu perdis pas mal de pouvoir d'achat. Tu refumas d'ailleurs. Tu dormis dans les bois à un moment donné. On aurait dit une bête avec des poils et des ongles longs et pointus comme des griffes. Et des cheveux sauvages. Et vivant dans la nature, tu n'avais plus ton aisance culturelle. Mais nous nous réjouissâmes, et nous réjouîmes aussi, car tu revins au galop avec ton naturel. Un naturel gentil. Nous en avons parlé entre nous, et nous avons reconnu ta nature gentille. Et c'est ce que nous devons d'abord te dire, avant que tu prennes la parole, que tu es quelqu'un de gentil, de très gentil même. Nous en avons discuté cette nuit, et nous avons conclu que c'était bien ton ton pas très gentil qui nous avait, disons, perturbé de la part de quelqu'un au fond de gentil, et même de très gentil. Ça nous a perturbé à l'unanimité. Nous ne pouvons pas encaisser tout et n'importe quoi sur n'importe quel ton de la part de quelqu'un de très gentil comme toi. Nous sommes en effet, comme nous l'avons dit, des êtres fragiles. Nous avons des névroses, entre autres choses. Nous traînons des casseroles. Nous sommes poursuivis par des souvenirs obscurs. Nous avançons comme nous pouvons dans le bruit infernal de l'idéologie. Nous vivons dans la peur de nos pathologies. Nous faisons tout pour avoir l'air normal. Nous redoutons l'hospitalisation. Nous avons développé des mécanismes d'adaptation. Mais leur efficacité n'est pas de 100%. Disons 80 ou 60 peut-être, ça dépend. Soyons honnêtes, putain, nous n'en savons rien. Disons que nous avons tendance à perdre un petit peu les pédales. Il faut le reconnaître. Plus d'une fois, nous fondâmes en larmes et fondîmes aussi pour un cheval qui tombe, ou un poisson qui crève. Nous nous amourachions facilement de chatons et de poulets fermiers. Ils nous attendrissaient comme des petits bébés. Nous n'étions pas en état de supporter l'innocence des poulets, qui ne nous ont rien fait, que nous mangeons donc sans aucune raison, puisque nous les aimons. Nous avons tendance à aimer les bébés comme des petits poulets. Nous sommes trop sensibles, nous ne savons pas pourquoi. La raison nous échappe. Longtemps, nous déraisonnâmes. Plus d'une fois, nous nous surprîmes à presque battre la campagne. C'était un délire enivré de verdure, une folie des prés. Nous avons pratiqué, des années durant, cet art verdoyant qui nuit à la raison. Notre incapacité notoire à la santé mentale n'était pas appréciée des milieux aisés auxquels nous aspirions. Et qui nous évitèrent ? Nous en avons encore le souvenir cuisant, bien que ça remonte à un paquet d'années. L'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les clous, bien que pas en pleine possession de notre self-control. Néanmoins, nous nous appliquons à ne pas dérailler. Il nous faut choisir dans les phrases et les mots, dans les phrases, ce qui oblige à une façon de parler légèrement coincée, peut-être un peu mondaine, dont nous sommes conscients, car nous sommes au courant. Mais nous n'y pouvons presque rien, bien que ça nous travaille. Nous nous sentons coupables. La culpabilité est un charbon divin qui nous consume l'âme et nous salit les mains. C'est des alexandrins. Ce qui est ridicule. Et nous en sommes conscients. De fait, nous sommes inquiets. Le fascisme s'étend. Et il y a la guerre. Par exemple au Yémen. Et en RDC. Par exemple. Et le fascisme s'étend, putain. Il s'insinue partout comme un vil serpent. Ce qui nous terrifie. Nous nous demandons quand on en finira avec cette saloperie. Nous ne savons pas quoi faire. Certains jours, nous désespérons en culpabilisant. Nous n'avons plus d'idées. Or, nous sommes bien obligés d'y penser. Mais plus nous y pensons, moins nous avons d'idées. Nous nous posons néanmoins des questions. Nous ne comprenons pas. Alors nous évitons d'en parler. Parce que nous sommes peut-être un petit peu bêtes avec nos questions. C'est pourquoi nous les gardons pour nous. Enfin, nous espérons que ça va s'arranger. Mais comment le savoir ? Nous nous faisons énormément de mourons. Du mouron le jour et nuit, et nous n'avons pas dormi, et nous sommes fatigués. Nous avons besoin de paix et de sérénité, c'est pourquoi nous n'avons pas envie de nous disputer. Nous en avons discuté dans la nuit, et tout le monde est d'accord sur ce point. Nous ne voulons pas nous battre pour des petites cuillères. C'est ce que nous avons dit. Dès le début de l'inventaire, nous l'avons dit. Parce que nous nous aimons. Nous en avons discuté dans la nuit, et tout le monde est d'accord sur ce point. Nous nous aimons à l'unanimité, et nous t'aimons aussi. Tout le monde est d'accord pour s'aimer. Par ailleurs, nous avons conscience du réchauffement climatique. Les petites cuillères sont dérisoires quand on pense à l'extinction de la vie sur Terre. Qui peut s'occuper de petites cuillères alors que la planète est en train de crever ? Nous ? Oui, mais qui parlera de ces petites cuillères quand tout le monde crèvera ? Même les classes moyennes plus ou moins supérieures. Personne. Parce que tout le monde s'en foutra. Parce que nous serons morts. Tous. Même les animaux. Tout ce qui vit sera mort. Tout, putain. Les oiseaux ont déjà un sacré coup dans l'aile. Qui entend les oiseaux ? Nous perdons les oiseaux par l'oreille. Sans parler des abeilles. Nous sommes conscients de la catastrophe annoncée par les oiseaux qui manquent et les abeilles, putain. Le danger principal, en ces temps instables, où les oiseaux manquent et les abeilles aussi, c'est que les classes moyennes plus ou moins supérieures se battent encore et toujours pour des petites cuillères. Comme si les petites cuillères étaient une espèce menacée. Comme si les petites cuillères conditionnaient l'avenir de nos enfants. Nous savons que la petite cuillère est un outil utile. Mais nous ne pouvons pas penser que les petites cuillères garantissent pour autant l'avenir de nos enfants. Même les cuillères en argent. D'ailleurs, les cuillères en argent ne sont pas plus efficaces que les cuillères en inox, ou en plastique, ou en bois. C'est pourquoi nous avons fait ce lot de cuillères indifférenciées. Bien que différenciable, par conviction climatique. Le lot sera tiré à la courte paille, méthode ancienne et toujours efficace qui nous fait penser aux petits navires. Que nous ne chanterons pas. Nous n'avons pas le cœur. Bien que nous connaissions encore ce chant crié dans la baignoire quand nous étions enfants. Ohé, ohé, putain. Et celui qui aura la paille la plus longue aura toutes les cuillères, même les cuillères en argent. Nous ne contesterons pas. Nous n'avons pas envie de nous battre pour des petites cuillères. Fuck les cuillères, putain. Il y a des sujets plus importants quand même. Comme le réchauffement climatique, dont nous sommes conscients. Nous sommes bien obligés parce qu'il fait trop chaud. La chaleur s'impose à la conscience, contrairement à la science et à la connaissance. Et nous avons ignoré les travaux scientifiques. Il faut dire que ça nous dépassait. Et longtemps, nous continuâmes à vivre comme avant, en culpabilisant, car nous sommes responsables, même si ce n'est pas notre faute, parce que ça nous dépasse. Mais quoi qu'il en soit du climat général, il faut tout de même avancer l'inventaire. Certaines choses s'imposent. On ne peut pas abrandir la fin du monde vivant pour cesser de s'occuper des choses, pour mépriser les choses ou pour les oublier, pour aller vivre nu au milieu des forêts, qui d'ailleurs n'existent presque plus, avec les orangs-outans, qui n'existent presque plus non plus. Nous ne sommes pas nus, nous ne connaissons pas la forêt, nous avons peur de la nature, nous ne voulons pas y retourner, même si nous l'aimons. Non, 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 nous n'y retournerons pas. Nous aimons la nature. Mais nous en avons peur. La vie dans la nature est extrêmement difficile. La nature n'est pas un endroit favorable à la survie de l'espèce. La nature est sauvage. Et la sauvagerie ne fait pas de cadeaux. On l'oublie trop souvent à cause de Rousseau, que nous avons lu. Nous avons lu Rousseau sans avoir tout compris. Au fond, qui a compris Rousseau? À part les rousseauistes. Nous ne sommes pas rousseauistes. Bien que pas non plus anti-rousseauistes. Nous nous définissons plutôt comme post-rousseauistes. Bien que nous n'ayons pas tout compris de Rousseau. Nous parlons de Rousseau, mais le connaissons-nous. Nous nous figurons un état de nature avec beaucoup de bonheur, mais est-ce que ce n'est pas un vieux désir d'âge d'or? Nous ne comprenons pas pourquoi il a fallu passer du bonheur immoral dans l'état de nature à l'état pas marrant sous contrat social. Nous ne comprenons pas le bonheur supérieur de la moralité à l'état de société. Nous n'avons pas signé ce contrat social, c'est ça qui nous défrise. Nous n'avons pas choisi l'état de société et son contrat pourri. Mais nous nous y plions car nous n'y pouvons rien. Et nous n'avons pas d'autre idée à proposer. Nous avions rêvé de devenir indien, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons indépendantes de notre liberté. Nous avions alors la folie en tête. Et le soleil au cœur, il faut dire que sifflait encore le merle moqueur. Mais nous n'y pensons pas car ça nous fout le plomb, étant donné que nous sommes dans les fers. Nous sommes tributaires d'un contrat dont nous aurions aimé contester certaines dispositions. La plupart, en fait. Mais nous y avons renoncé car nous sommes sur écoute. Tout ce qui nous concerne est stocké quelque part dans des banques de données. C'est la société de contrôle, comme disait Deleuze. Nous avons lu Deleuze et Foucault. Mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir tout compris. Qui a compris Deleuze? Et Foucault, putain. Mais nous avons retenu la notion de société de contrôle. Nous ne savons pas si c'est une notion ou si c'est un concept. Nous ne saurions pas dire. La notion de concept est difficile à saisir. Et le concept de notion nous pose aussi question. C'est l'idée qui nous gêne. Nous nous demandons si ça ne va pas trop loin, cette idée de contrôle. Nous espérons que c'est un peu exagéré. C'est pas la Chine, quand même. Nous sommes plutôt chanceux par rapport à eux. Les gens oublient qu'ils sont chanceux par rapport à la Chine. Mais là-bas, ça rigole pas. Ici non plus, mais bon. C'est mieux ici que dans des pays pires. Nous pouvons donc nous estimer heureux, même si c'est objectivement de plus en plus la merde. Mais moins, car au moins on a le droit de critiquer, contrairement à la Chine. C'est trop facile de critiquer alors qu'on a le droit. C'est pour ça, C'est pourquoi nous nous contentons d'être contents comme ça. Même si c'est pas drôle, cette société de contrôle. Non, 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 nous n'aimons pas du tout. Police partout, putain. Mais nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons pas dénoncer une société de contrôle dont nous faisons partie, car la dénonciation de la société de contrôle fait également partie de la société de contrôle dont nous faisons partie. C'est clair ? Que ça nous plaise ou non, nous participons au contrôle qui s'exerce sur nous. Nous nous contrôlons d'autant plus farouchement que nous sommes conscients que nous sommes contrôlés. Mais nous n'aimons pas ça. Nous y sommes poussés par des opérateurs qui nous relient à des systèmes d'exploitation, par des conventions, suivant des clauses que nous avons acceptées sans les avoir bien lues. Il faut dire que c'est souvent écrit en tout petit. N'empêche que nous pouvons encore nous exprimer. Et nous sommes incités à dire notre avis sur toutes sortes de sujets. Par exemple, nous pouvons dire si le service est bien. Nous sommes régulièrement sollicités pour évaluer la qualité d'un tas de prestations. Nous avons la possibilité de choisir entre différentes marques de produits proposées en grande quantité. Nous pouvons faire aussi des petites blagues. C'est la démocratie. Mais nous ne voulons pas pour autant nous faire remarquer et nous faire arrêter sur la base de données fouillées par la flicaille en fonction de tout petits soupçons, comme le terrorisme, par exemple, ou d'intention de prendre position sur le climat, par exemple. Car il fait chaud, putain. La planète est en train de devenir un four, pendant que nous vivons dans la peur des poulets. Pendant que nous vivons dans cette peur des poulets, nous en avons discuté dans la nuit et nous avons convenu que nous n'étions pas complètement sereins. Nous soupçonnons que la société de contrôle était déjà prévue par les dispositions du contrat de Rousseau qui nous fut imposé. Mais nous y pensons peu parce que ça nous déprime. C'est ce que nous nous sommes dit, que nous étions déprimés par Deleuze et Foucault et Rousseau, forcément, même si c'est pas sa faute. Cependant, nous avons pris connaissance du fait que la nature n'était pas non plus la solution. La nature est un milieu hostile, même si la nature est bien. Et nous l'aimons beaucoup. Malgré l'hostilité, nous aimons la nature. Nous ne pouvons pas nous passer d'un jardin. Nous avons peur de la nature hostile, mais nous avons peur aussi de la disparition de la nature en tant que jardin. La nature est l'atout naturel dont nous avons besoin pour jardiner. Le métier de jardinier est un très beau métier. Jardinier, c'est le métier le plus beau quand on y réfléchit. Et nous le disons avec d'autant plus de conviction que nous sommes très loin d'être des jardiniers. Mais nous les admirons, ils ont la main verte, ils font des potagers, ils cultivent des fleurs, l'utile et l'agréable. Nous aimerions beaucoup vivre dans des jardins. Les jardins ne seraient pas des espèces d'espaces verts au milieu des cités, mais un écosystème complètement recyclé, adapté aux vélos et aux petits sentiers qui sentent la violette, et aux poissons filant dans les rivières claires, et pas flottant mollement, ventre à l'air, dans l'eau contaminée des centrales nucléaires. Nous sommes contre le nucléaire, nous aussi, figure-toi. Nous l'oublions parfois entre deux catastrophes, mais nous n'approuvons pas. Atomkraft, nein, danke. L'électricité dans les jardins cités serait produite par des petits moulins, à eau ou à vent. Ce serait un futur un petit peu comme avant, dans un environnement pour y vivre autrement, avec des circuits courts et des petits marchés pour échanger nos produits naturels le lundi ou le samedi. Les gens se diraient bonjour, ils se promèneraient avec des paniers en osier tressé, ils chercheraient pas le profit à tout prix, ils prendraient le temps de vivre, d'être libres. Comme disait Moustaki, que nous écoutions quand nous étions petits. Nous serions heureux dans ces jardins cités. Ce serait une façon de lutter contre l'exploitation des ressources mondiales par la grande industrie. Tout ça au nom du profit à tout prix, qui détruit les forêts et pollue les cours d'eau, qui contamine les sols et tue les vers de terre. Nous sommes affectés par cette nouvelle de la diminution des populations de vers de terre. Parfois, nous y pensons et nous désirons sauver les vers de terre. Mais comment faire ? Nous pourrions développer des façons de vivre avec les vers de terre. Nous y avons pensé. Nous avons même un petit peu essayé dans ce jardin d'ici, qui n'est pas une cité idéale, mais un jardin tout con. L'idéal pose problème à cause du jardin. Nous en avons la charge à cause de l'entretien. Un jardin a besoin d'un entretien constant. Le jardin est une extension des tâches ménagères. La tondeuse est comme l'aspirateur, mais en plus fatigant. Longtemps, nous passâmes la tondeuse et nous tondûmes et tondîmes aussi. C'était très fatigant. Nous rêvions d'un jardin avec des fleurs variées, des bosquets et des haies, suivant le style charmant des jardins anglais ou japonais, avec des cerisiers et tout le tintouin. Mais pas à la française, bien que ce soit beau aussi, mais pas très adapté à un terrain en pente. Finalement, nous dûmes nous résoudre à ce que ce jardin ne soit ni charmant, ni anglais, ni japonais, ni rien. Nous nous démerdâmes surtout comme nous pouvâmes, en fait, c'est-à-dire assez mal, puisque nous pûmes peu. Le printemps nous dépasse, tout pousse beaucoup trop et n'importe comment. Et ce que nous plantons meurt au bout d'un moment. Mais nous persévérons. Nous avons l'idéal cultivé du jardin. Nous avons cette culture idéale, mais nous la critiquons pour des raisons pratiques. Ça demande du travail. Nous n'avons pas le temps à cause du boulot. Car nous en avons un. Ce qui est une chance. En effet, sinon nous serions au chômage. Et il nous faudrait passer nos journées à chercher un emploi. Ce que nous ne savons pas très bien faire. Nous serions sans cesse à nous justifier de ne pas en trouver, alors que ce serait entièrement notre faute. Nous tomberions peut-être dans l'alcool et nous aurions forcément des problèmes dentaires et d'autres problèmes que nous préférons ne pas énumérer. Nous serions malheureux et peut-être même pauvres. Nous ne serions presque plus personne et plus rien, putain. Nous ne pouvons pas cesser le travail à cause du printemps. Nous ne vivons pas dans un jardin, nous. Nous n'avons pas le loisir de penser aux petites fleurs que nous aimons beaucoup. Nous en avons parlé la nuit dernière et nous avons souligné que nous aimons beaucoup les fleurs, même à la folie. Il est possible d'aimer follement les fleurs tout en discutant raisonnablement de petites cuillères. Ne t'en déplaise. Nous ne sommes pas indifférents à la poésie. Un simple coucou nous émeut. Eh oui. Contrairement à ce que tu sembles à dire en ne disant rien à propos des cuillères. Parce que tu n'as rien dit. C'est ce qui nous a troublés. Nous en étions aux cuillères. Mentionnées à l'article 12, titre 3.2. Article 12, couvert, 1 couteau, 2 fourchettes, 3 cuillères, 3 1 grande cuillère, 3 2 petite cuillère. C'est là que s'est posée la question des cuillères. Alors que nous avions déjà évoqué les fourchettes. Ainsi que les couteaux. Sans nous entretuer parce que nous nous aimons et que nous n'avons pas la passion des couteaux, ni d'aucune arme d'ailleurs. Nous déplorons la guerre et les crimes de sang, tandis que les cuillères, surtout les en argent, nous plaisent énormément. Pas à cause de l'argent, bien que ça compte aussi. Car sans argent, tout est difficile. Tout est probablement difficile aussi avec de l'argent. Mais peut-être moins. Nous n'en savons rien et nous ne voulons pas le savoir. Nous sommes illusionnés par un certain bonheur auquel on accéderait en changeant de niveau de vie. C'est pourquoi nous aimerions avoir beaucoup d'argent tout en restant sensibles à la misère du monde, à laquelle nous échappons. Heureusement, nous sommes le jouet de puissants effets que l'argent exerce par l'espoir d'en avoir et la crainte d'en manquer. La simple idée de la présence ou du manque d'argent dans un endroit donné crée la tension ou la paralysie de toute la société. C'est la réalité de l'économie de marché. Alors que nous sommes contre. L'argent crée l'illusion d'une objectivation par la transformation de toute qualité en quantité chiffrée. Et oui, tout a un prix, même ce qui n'en a pas. Même la vie, putain. Les humains ont aussi une valeur marchande. Même nous, en fait. La plupart des humains ne valent rien du tout. Ainsi, les enfants furent longtemps forcés à travailler dans les filatures et les mines de charbon. Mais ce temps est révolu, Dieu merci. Même si des enfants noirs travaillent dans des plantations de cacao et dans les mines d'or, par exemple en Afrique, ce sont des enfants, putain. Et nous ne disons rien. Est-ce parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont loin? Ou parce que nous avons besoin de matières premières? D'autres sont obligés de quitter leur pays pour aller mourir quelque part en Libye ou noyés dans la mer. Des cadavres viennent s'échouer sur les plages et contre les rochers. Et ce ne sont pas seulement des enfants. Il y a aussi des femmes et de nombreux hommes. Ce sont tous des humains, putain. Même si nous employons le terme de migrants. Alors qu'ils sont humains. Nous avons un petit peu peur des migrants, même s'ils sont humains. Est-ce parce qu'ils sont noirs? Est-ce parce que les noirs savent qui sont les blancs? Alors que nous n'en savons rien? Est-ce que nous serions blancs sans nous en rendre compte? Nous n'y pensons pas trop à la couleur de peau. Nous ne sommes pas racistes, putain. Et nous sommes indignés par l'inhumanité dont nous sommes témoins. Et peut-être complices. Nous sommes tous coupables, moralement en tout cas, étant donné que nous n'avons rien fait. C'est le résultat d'une politique nationale et européenne, et même occidentale, qui nous fera peut-être honte plus tard. Enfin, nous l'espérons, car elle est inhumaine. On ne devrait pas traiter les humains comme des bêtes. Les humains ont une âme, contrairement aux bêtes, comme disait Descartes, que nous avons essayé de comprendre, qui a compris Descartes à part les cartésiens. Nous ne sommes pas cartésiens, même si nous avons quelques bases, cogito ergo sum, comme on dit par ici. Les bêtes ont peut-être une âme aussi, en fait, mais pas au point de se faire baptiser. Nos ancêtres aimaient bien l'époque des esclaves, car ils pouvaient les baptiser à la chaîne. C'était cruel et chrétien à la fois. Les esclaves étaient humains puisqu'ils avaient une âme, alors qu'ils étaient qualifiés de biens meubles, c'est-à-dire de biens qui bougent en fonction du désir de leur propriétaire. Mais nous avons cessé de nous raconter ces histoires d'âmes à dormir debout et de meubles mobiles. C'était trop cruel et chrétien à la fois. Les choses ont changé, et les humains aussi. Les humains sont traités comme des ressources humaines, voilà la vérité. Et c'est peut-être aussi un petit peu cruel. Ressources humaines est un oxymore dont nous préférons ne pas mesurer les immenses conséquences. Ça nous angoisserait. Nous préférons croire que c'est une façon de parler. Mais la façon de parler est aussi souvent l'expression qui cache la forêt. La forêt fait aussi partie d'une exploitation. Nous sommes contre l'exploitation. L'exploitation transforme toute matière en argent. Chaque arbre transformé perd sa qualité d'arbre. La qualité de l'arbre est dans l'arbre, pas dans l'argent, putain. Nous aimerions beaucoup vivre dans une société où l'argent ne définirait pas la valeur de toute chose. Nous aimerions donner pour recevoir et recevoir pour donner. L'amitié et la paix régleraient nos échanges. Nous irions d'île en île sur des barques légères. Nous échangerions des colliers de coquillages avec des peuples fiers. Et nous serions heureux comme des argonautes. Mais nous ne vivons pas dans une de ces îles. Loin de là même. Nous pourrions y aller facilement en avion. Mais ce ne serait pas très éco-responsable. Ou en bateau à voile, si nous en avions un. Mais pourquoi faire, en fait ? À vrai dire, nous serions bien emmerdés avec tous ces colliers. Nous n'avons pas les codes correspondant à ces rapports sociaux réglés par des cadeaux. Il faut dire que les coquillages d'ici ne sont pas très jolis. Nous préférons l'argent à ces coquilles de moules, même si l'argent crée souvent des embrouilles. Presque toujours, en fait. C'est pourquoi nous évitons d'en parler. Nous nous sommes sentis mal de parler des cuillères à cause de l'argent qui crée un tas d'embrouilles. C'est pourquoi nous avons décidé de ne considérer que la valeur d'usage de ces putains de cuillères. Alors que la valeur de l'argent d'une cuillère est bien supérieure à la valeur d'usage d'une cuillère en argent. C'est clair. Et nous avons renoncé à l'argent des cuillères. Nous avons décidé à l'unanimité de ne pas estimer cet argent qui vaut cher. Nous étions tous d'accord. À l'unanimité. Car nous nous aimons. Et nous t'aimons aussi. Tu regardais les coucous, sans rien dire du tout. Nous avons remarqué ton silence au milieu des coucous. Nous nous sommes d'abord dit que tu ne disais rien pour donner ton accord. Qui ne dit mot consent, comme on dit par ici. Mais tu n'as rien dit. Ce qui nous a troublés. La plupart du temps, tu ne dis rien sans que ça nous dérange. Hein. Au contraire, on préfère. Même si nous ne sommes pas contre un petit mot de temps en temps. Ne serait-ce que pour faire entendre ta voix. Ta voix participe à l'harmonie du tout, comme disait Schiller, que nous n'avons pas lu. Mais nous connaissons l'ode à la joie du final de la 9e de Beethoven. Et nous connaissons Brahms et Bartok et Beckett, ce qui n'a rien à voir. D'ailleurs, nous n'en avons pas beaucoup de souvenirs. Nous n'avons pas tout compris dans Beckett. Mais nous apprécions sa façon de réduire la voix de l'innommable à sa simple expression. C'est pourquoi un petit grognement pourrait nous suffire. Un hem-hem, ou un ouhou, ou un baba-baba, en attendant de savoir à quoi sert ce vénérable organe. Ce serait une façon de participer, sans être pour autant partie prenante. Certains parmi nous veulent être partie prenante en prenant la parole. De façon un petit peu ridicule, hein. On y revient toujours. Certains n'ont peut-être pas les moyens d'exposer leur avis sans passer pour des cons. Mais ils essayent quand même. Ils tentent de s'imposer dans le concert général. C'est un petit peu raté, mais c'est accepté. Et même apprécié dans une certaine mesure. Preuve de l'indulgence qui nous caractérise. Mêlée à une sorte de pitié, peut-être. Et de déception, sans doute, mais légère, parce que ça arrive à tout le monde, et que l'important est de participer pour être partie prenante. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faille prendre parti. Personne ne te demande de prendre parti, surtout pour des cuillères. Ça voudrait dire quoi ? Nous y avons réfléchi dans la nuit, nous nous sommes demandé, mais pourquoi faudrait-il prendre parti, putain ? Pour des petites cuillères. Nous étions pris dans l'angoisse du pourquoi des cuillères. Alors que nous nous en foutons, au fond. Mais tout le monde s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Et surtout comme il peut. Parce qu'il est parfois difficile de faire comme on veut. Alors on fait ce qu'on peut. Faire ce qu'on veut se réduit parfois à faire ce qu'on peut. Et faire ce qu'on peut, c'est déjà un peu de volonté. Même si on veut peu. On peut aussi ne pas vouloir du tout. Qui a dit qu'il fallait vouloir ? Personne ne peut t'obliger à vouloir. Mais nous espérons au moins de la bonne volonté. Nous savons que la bonne volonté n'est pas la volonté. Mais ça nous suffirait. C'est déjà ça. Il faut bien remarquer que tu n'as pas fait preuve, au milieu des coucous, de bonne volonté. Tu n'as pas montré de disposition à réaliser avec le sourire une action positive en vue de l'accomplissement d'une tâche pas marrante. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous espérons que ce n'était pas pour autant de la mauvaise volonté. Ce serait un peu fort de café. bien que cette expression soit ridicule, comme nous l'avons déjà dit. Nous l'employons néanmoins. Est-ce par amour pour Proust ? Ou pour te dire, d'une façon agréée par les lettres françaises, ce vers libre d'Aya Nakamura, « Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses ?» Comment le savoir ? Il n'y a pas moyen. Nous ne sommes pas experts de nos façons de parler. Nous ne savons pas exactement ce que parler veut dire, bien que nous soyons attentifs à l'usage du langage. C'est pourquoi nous choisissons des expressions peut-être ridicules, mais pas stigmatisantes. Nous ne souhaitons pas te stigmatiser, ce serait dégueulasse. Mais nous ne sommes pas certains d'avoir bien compris ce que tu n'as pas dit, vu que tu n'as rien dit. Bon Dieu, ça veut dire quoi de rester ainsi quoi au milieu des coucous ? Nous nous sommes demandé. En 4 fois 6 pieds, sans compter les œufs muets. Serait-ce un manque de bonne volonté ou carrément du foutage de gueule ? Nous préférâmes y voir une absence de présence, que nous comprenâmes et comprîmes aussi. Et nous te pardonnons, même si ça nous inquiète, parce qu'il faut quand même avancer l'inventaire. L'inventaire nous concerne. Ceux qui sont concernés doivent être au moins un petit peu concernés. Sinon, qui s'occupera des choses qui nous concernent ? Qui devra décider du destin des cuillères ? Et c'est qui dira ce qu'il faut faire ? Des moules à tarte aussi ? Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons reconnu que nous avions eu un court instant envie de te zigouiller ou de te foutre un poing ou de te mettre une baffe ou une petite tape. Mais nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas car nous t'aimons et tu nous aimes aussi. Nous en avons discuté dans la nuit et nous avons admis que tu nous aimais quand même. Nous avons toujours eu peur de ne pas être aimés. C'est une chose que nous ne pourrions pas supporter. Nous avons besoin d'amour, nous aussi. Ou au moins d'un peu de respect. Surtout de la part de quelqu'un de gentil comme toi. C'est pourquoi nous préférons penser que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Mais peut-être une difficulté personnelle, due à ta personnalité un petit peu effacée, d'où l'absence de présence. Nous avons un peu de psychologie. Nous ne sommes pas psychologues de métier. La psychologie nous permet de comprendre ce que nous ne comprenons pas et de ne pas juger. Et nous ne te jugeons pas. Alors que ça nous pose quand même un peu problème. Parce que même si tu ne dis rien, et tu n'as rien dit, ce n'est pas un reproche. Rien, c'est déjà beaucoup. Il n'empêche que tu n'en penses peut-être pas moins. Et pas moins n'est pas rien. Tu dis rien, l'air de rien, ça veut dire quelque chose. Même si ton air est bon, là n'est pas la question. Ton air est un bon air, mais c'est un air, c'est clair. Cet air est un air qu'on sent dans l'atmosphère et qui nous casse l'ambiance. La bonne ambiance est requise en certaines circonstances. À Noël, par exemple. Mais nous n'allons pas parler de Noël, putain. Personne ici n'a envie d'en parler. Nous en avons soupé de la joie de Noël. Combien de Gloria avons-nous tristement tonné ? Combien de chapons avons-nous découpé alors que nous préférons le canard des falaises ? Oh, les voir passer tout à coup dans l'espace, ils vont librement où leur désir le veut. Tandis que nous restons plantés sous le sapin en attendant l'heure des biens de consommation. La vérité, c'est que nous sommes coincés entre la chrétienté et le capitalisme le plus éhonté. Ce qui est très con. Mais c'est la tradition. Et nous l'acceptons, bon gré, mal gré. Contre mauvaise fortune, bon cœur, comme disait Plautus. Ou peut-être Molière. À moins que ce ne soit n'importe quel couillon. Nous y avons réfléchi dans la nuit et nous nous sommes dit que nous avions envie d'aimer Noël quand même. Nous avons, nous aussi, un rêve de Noël. Comme dans les films américains. La vie est belle, putain. Et nous n'y pouvons rien. Alors autant passer un bon Noël pour que ça se passe bien. Et l'inventaire, c'est pareil. C'est ce que nous avions dit à l'unanimité, qu'il fallait que ça se passe un peu comme à Noël. Bien que ce soit le printemps. Et tu étais d'accord puisque tu n'as rien dit. Et voilà que soudain, au milieu des coucous, tu ne dis rien du tout. Nous étions dans l'ambiance du printemps de l'inventaire, auquel nous procédons avec application et par imitation des rites admirables que nous avons observés chez moult gens aisés. C'est dire que nous sommes un petit peu tendus et en même temps contents. C'est un petit peu comme si nous étions des leurs. C'est comme si nous pouvions aussi, nous, régner sur un petit domaine et administrer tout un ensemble de choses, avec beaucoup de prudence et pas mal d'inquiétude. Car c'est pas tous les jours que nous devons régler des questions matérielles, auxquelles il faut bien croire, puisqu'elles sont matérielles. Or, ton silence ressemble à l'expression d'un doute. Mais le doute n'est-il pas la condition de la foi ? La foi est toujours un petit peu douteuse, sinon ce serait trop facile, ce que nous nous sommes dit, parce que nous y croyons. Et nous espérons te convaincre d'y croire, sans pour autant aller jusqu'à te retourner le cerveau. Nous en avons discuté dans la nuit et nous nous sommes demandé, est-ce que nous sommes en train de lui retourner le cerveau ? Sans le vouloir, en croyant bien faire. Est-ce que nous nous serions fait nous-mêmes retourner le cerveau avec des petites cuillères ? Est-ce que nous sommes en train de devenir les esclaves d'une mystification sur la valeur de ces choses d'ici-bas que nous fétichisons ? Comme disait Marx, que nous n'avons pas lu, mais qui a lu Marx à part quelques marxistes ? Et les marxistes ont-ils même lu Marx ? Et Engels, putain, qui dit l'un dit l'autre. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu perdus depuis la fin de l'espoir d'une dialectique de l'histoire ? Toutes ces choses nous travaillent. Nous sommes sans cesse à nous demander est-ce que vaut ci ou ça ? Nous ne savons pas ce qui fait la valeur. Et nous nous posons cette question capitale. Est-ce que c'est le travail ? Ou est-ce que c'est le marché ? Ou encore autre chose ? Une chose dans les choses ? Serions-nous attachés à la valeur des choses ? Alors qu'un seul coucou vaut bien plus qu'un tas de petites cuillères ? Tu ne disais rien pour nous dire quelque chose. Et les coucous, tu semblais nous dire en ne disant rien à propos des cuillères. Est-ce que ton silence au milieu des coucous n'était pas une façon de critiquer la valeur des cuillères incorporant le travail et la matière première ainsi que l'utilité dans la définition de la valeur par le prix ? Nous parlions des cuillères, en effet. Et alors ? Il faut bien en parler, puisque c'est l'inventaire. Les cuillères étaient sur la table, mais ça aurait pu être aussi bien les verres à pied, qui devront arriver à un moment donné, comme tout ce merdier auquel nous tenons sans savoir comment. Des quantités d'objets sans aucun rapport avec le sujet, des valises de merde, un tas de saloperies dont personne ne veut. Personne ne veut de rien. Même si ce n'est pas une question de volonté, on y revient toujours. C'est une question de besoin. Le besoin nous manque. Nous avons tout ce qu'il faut. Et en grande quantité. Qui a besoin de petites cuillères ici ? Ou de verres, même à pied ? N'importe qui peut boire dans n'importe quel verre. Même un verre à moutarde. Le verre à pied est considéré comme un verre supérieur, mais c'est une convention que nous critiquons. Il y a des choses beaucoup plus importantes que les verres à pied. Nous ne sommes quand même pas abrutis au point de l'ignorer. Néanmoins, il faudra bien en parler à un moment donné de ces vers soi-disant supérieurs. Et en venir aussi aux inférieurs tout cons, jusqu'aux ébréchés, qui nous rappellent peut-être d'anciennes blessures. Peut-être rien, car la mémoire défaille et flanche quand ça l'arrange. Elle fait des trous normands. C'est pour laisser place à des choses nouvelles que nous préférons à ces merdes anciennes, dont nous avions espéré être débarrassés, mais qui nous reviennent au sens littéral, et même littéraire, et notarial aussi. Les cuillères font partie de tout ce merdier qui nous a édifiés tout en nous détruisant, et que nous aimons d'un amour incompréhensible, comme souvent l'amour. Mais nous faisons l'effort de ne pas les aimer pour ne pas les vouloir, et les laisser aux autres. C'est la moindre des choses. Quelqu'un a demandé « Alors, les cuillères, c'est pour qui ?»« Une fois, deux fois, qui c'est qui les aura ?» Personne n'a répondu qu'il voulait les cuillères. Même celles en argent. C'est là que nous avons eu l'idée de la courte paille. Pour savoir qui aurait les petites cuillères. Nous en étions là. En effet, putain. Tu ne disais rien au milieu du jardin. Tu fixais des coucous dans le jardin en friche. Il faisait chaud et beau. Mais nous avons un stock de bouteilles d'eau, heureusement. Nous sommes prévoyants. L'eau d'ici se fait rare. La rivière a laissé un lit de boue séchée. Les hérons sont partis, les vaches sont couchées sous les saules brûlés, l'herbe jaunit avant d'avoir poussé, les avions se croisent dans le ciel désert. L'atmosphère est peut-être un peu chargée. C'est tout un écosystème dont nous constatons la transformation. Nous prenons la mesure de l'atout naturel dont la faim nous effraie, à cause du réchauffement notamment. Mais bon, nous ne pouvons pas rester dans l'effroi du réchauffement, parce que les choses sont là, qu'on le veuille ou non. Nous n'aimons pas les choses, tu n'aimes pas les choses, nous n'aimons pas non plus. Avant de commencer l'inventaire, nous avons dit que ces choses nous intéressaient peu, presque pas du tout, mais que nous devions nous en occuper parce que nous ne savons pas quoi faire sinon avec ces choses. Et nous ne savons pas non plus comment faire sans les choses. Aucun être humain ne peut se passer de choses. Nous ne sommes pas des orangs-outans. Dieu merci. Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons admis que nous étions humains. Or, toute chose concerne obligatoirement tout humain. Le propre de l'humain est d'avoir toutes ces choses qu'il concerne. C'est normal, c'est humain. C'est la nature des choses. Ne t'en déplaise, et oui. Sans les choses, nous serions encore à poil dans le jardin d'Éden à bouffer des pommes en sautant d'arbre en arbre. Ce qui est bien beau dans l'idée, mais pas très adapté à notre évolution. Car nous n'avons pas les pieds préhensiles, et nous attrapons facilement la crève. Sans compter que les pommes, bien que très intéressantes du point de vue nutritif, ne suffisent pas à l'équilibre alimentaire d'un adulte habitué aux arts de la table. Néanmoins, nous aimons les pommes, et nous aimons les arbres, et surtout les pommiers. Sans les pommiers, il n'y aurait pas de pommes, mais... Donc, pas de tarte aux pommes, pas de boudin aux pommes, ni rien aux pommes, putain. Pas de cidre, ça va de soi, ni de calva, malheureusement. Nous pourrions nous en passer. Hein. Nous devrons peut-être nous y habituer. Sans pommier, la vie est possible, mais est-ce encore une vie ? Et le pommier est l'arbre qui cache la forêt. Puisque sans forêt, il n'y aurait carrément plus de vie du tout. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la vie des forêts qu'à toutes ces choses qui sont dans l'inventaire. Et nous faisons la différence entre un arbre et une petite cuillère, même en argent. Qu'est-ce qu'une cuillère en argent, et même tout l'or du monde, à côté d'un simple arbre ? Nous avons les arbres en tête, ne t'en déplaise. Nous en avons parlé la nuit dernière et nous avons établi que nous pensions aux arbres. Nous souffrons quand nous pensons à ce moment où nous fûmes séparés, les arbres et nous. Car nous nous souvenons des pommiers d'en bas. Nous avons habité dans leurs branches étranges, dont nous pourrions décrire toute l'architecture. Et la peau de leurs troncs contre nos peaux d'enfants. Leurs lièges gris dressés dans la prairie comme des éléphants. C'est dans ces pommiers que nous avons vécu la meilleure partie de notre liberté. C'était la vie perchée. Nous avons le sommeil tourmenté par les pommiers qui manquent. Nous nous en souvenons tant et tant que d'avoir à le dire nous défonce le cœur. Ô douleur insensée de ce temps des pommiers tombés dans la prairie comme des éléphants. Nous pleurons ce temps des éléphants normands, bien que nous en ayons terminé avec ce pays, heureusement. Nous ne sommes pas normands, putain. Contrairement à Madame Bovary qui vivait à deux pas d'ici, dans ce pays qui n'existe pas, comme disait Flaubert, que nous avons lu en battant la campagne, où rien ne poussera plus. Nous ne sommes pas flaubertiens, mais nous connaissons bien ce pays de Madame Bovary. Et plutôt crever que de rester ici. C'est ce qu'elle fit, du reste. Elle creva, criblée de dettes, en avalant du poison à pleine main, hein, ce qu'on a dit. Ce qui semble un peu extrême, mais bon. Les problèmes d'argent menacent la vie des gens comme Madame Bovary. Vivre dans l'idéal, c'est beau sur le papier, mais c'est plus compliqué dans la réalité. Nous ne voulons pas dire du mal de Flaubert. Il a fait ce qu'il a pu avec la Normandie. Mais il faut se tirer à un moment donné. Ce que nous avons fait. S'il a fallu revenir, c'est à cause de ces choses qui nous reviennent aussi. Car nous devons bien vider la maison. Et vendre cette maison, ce que nous avons dit. Que nous allons la vendre. Et le jardin avec. Nous l'avons décidé à l'unanimité. Contre Flaubert, putain. Et voilà que soudain tu demandes la parole. Tu n'avais encore jamais demandé la parole. À part peut-être une fois en 1980 quelque chose. Nous remarquons en passant qu'une demande de parole aurait pu nous préparer à cette nouveauté. Mais bon, nous ne t'en voulons pas, hein, car nous t'aimons, putain. Alors nous t'écoutons. Mais souviens-toi que nous sommes fragiles.